Tous les jeudis à 9h et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Bon, finalement, après tout ce suspense et tous ces rebondissements, on est à l'ancienne heure, à la librairie Caractère, à 9h30, et même 9h37, visiblement. Bonjour, Anthony Clément.
Bonjour, Radio MDM. Bonjour, Margot. Bonjour, tout le monde.
Est-ce qu'on se vous voit pendant cette demi-heure, comme le veut la coutume?
Non.
Non. Ça va être compliqué.
Non, j'avoue qu'avec Anthony, il me semble que nous ne nous vous voyons pas.
Plus?
Plus.
Ouais, peut-être.
Pardon. Bref, il n'empêche que, merci encore.
Avec
et
joie.
Oui, les libraires ont leurs habitudes et j'avoue que l'heure de 9h30 me convenait beaucoup mieux, donc j'ai décidé
de remettre ça
par dictature livresque de venir à 9h30. Désolé, bonjour tout le monde, je viens pour 3 livres ce matin. Évidemment, une nouveauté, une sortie grand format chez Gallimard dans la collection Du Monde Entier. Deux femmes, un homme ce matin. Donc d'abord, C.E. Morgan dans cette première partie. C.E. Morgan appelle ça son premier roman. C'est un peu faux, en ce sens où elle avait commis, c'est vrai, je l'avais dit, un autre texte, un grand texte qui s'appelait Le Sport des Rois, qui avait été lauréat du Grand Prix de l'héroïne pour Madame Figaro. Voilà, on en pense ce que nous souhaitons. Il n'empêche que C.E. Morgan fait partie des grandes dames des lettres aujourd'hui anglo-saxonnes. C.E. Morgan, dans Le Sport des Rois, avait été quelque part un peu considérée comme la Steinbeck aujourd'hui contemporaine, en ce sens où elle aime rentrer voilà, dans la ruralité, dans ce qui fait que les États-Unis sont un pays ambigu, avec évidemment, comment dire, des problèmes de filiation vis-à-vis de leur histoire liée à la ségrégation, aux Amérindiens, tout ça. Donc C.E. Morgan revient avec un grand texte, là j'avoue qu'on est juste avant les vacances, il me semble que c'est demain soir, les vacances. Là je vous annonce 3 textes véritablement faits pour un plaid dans ces périodes hivernales. Nous sommes donc dans le Kentucky, nous sommes avec 2 personnages qui s'appellent Oren et Aloma. Oren a perdu sa mère et son frère dans un accident de voiture. Il ne lui reste plus aucune famille, et il lui est donc obligé de reprendre l'exploitation familiale, l'exploitation de tabac. Aloma, elle, est une pianiste. Elle tombe amoureuse, évidemment, de Oren, dans son côté, on va dire, taiseux, costaud, quelque part. Mais il n'empêche que au final, ils n'ont pas grand-chose à partager ensemble. Ce qui est très, très étonnant dans ce roman, c'est qu'ils vont se construire, évidemment, à partir de ce drame familial. Ils vont reprendre cette exploitation, ils vont reprendre cette maison, cette ferme, cette grange qui était un peu laissée à l'abandon, et tenter de faire leur vie là-dedans. On se retrouve avec une femme qui est orpheline de son art un petit peu, même si elle récupère un piano, qui a été élevée dans une école missionnaire, qui a quelques principes, et lui en a encore davantage. Le problème, c'est que le souffle, celui du vent du Kentucky, vient aussi évidemment dans les entrailles de Aloma, qui, elle, va être très partagée comme une sorte de hydre à plusieurs têtes. On se retrouve avec une femme qui a envie évidemment d'appuyer, de mettre ses doigts sur les touches et de vivre de son art, mais en même temps qui va appuyer aussi son homme dans la reprise de cette exploitation familiale, qui va tenter de mettre du sens dans sa vie, dans son couple, mais qui va être entièrement partagé, voire même des fois jeter son dévolu sur le pasteur d'à côté, qui est une sorte de Ned à la Simpson, un peu
Ned
costaud.
Sanders.
Ouais, exactement, mais beaucoup plus séduisant. Et donc on se retrouve dans ses fils de fermier, pas pour elle mais pour lui, dans ses personnages taciturnes, et en même temps avec une grande fierté, on se retrouve avec la volonté de créer une vie sur des souvenirs qui ne sont pas les siens. Au final, c'est plutôt le roman évidemment d'Aloma plutôt que de celui d'Oren, même si Oren, comment dire trivialement, en chie, hein, véritablement, en reprenant l'exploitation familiale. Mais c'est surtout le roman d'Aloma, comment elle va réussir à trouver sa place dans ces souvenirs-là, c'est-à-dire reprendre une maison, reprendre une exploitation qui était celle de son mari et de sa famille. Comment faire des souvenirs souvenir qui ne sont pas les siens siens, et comment quelque part ça rappelle, vous avez peut-être lu le livre de Cécile Coulon,
oh là là,
Bête
là,
au
mais
paradis.
Vous me prenez ma transition.
Oui, alors c'est rare de comparer pour le coup.
Depuis tout à l'heure, je vous écoute, exactement. Je t'écoute, bordel. Et je me dis, non mais c'est du Cécile Coulon transposé
exactement.
Dans le Kentucky, quoi.
Exactement, alors je ne sais pas, si, je pense que le livre de Simon Morgan est sorti avant celui de Cécile Coulon, évidemment, dans les pays anglo-saxons. Nous, il nous arrive en cette rentrée de janvier, mais il y a de grandes similitudes et peut-être que ça aurait été une question à poser davantage à Cécile Coulon lorsque nous l'avions reçue à la librairie Caractère, justement, cette filiation avec les auteurs, les autrices contemporaines américaines, en ce sens où on y retrouve beaucoup de similitudes et surtout quelque chose qui était très prégnant dans l'œuvre Une bête au paradis de Cécile Coulon et dont on n'a pas forcément parlé, c'est comment on le fait taire, comment on fait corps à la terre, comment une terre s'impose et comment on s'impose à elle aussi. Et c'est, on retrouve dans ce texte plein d'explications au texte de Cécile Coulon. Donc j'invite Margot en face de moi à lire si Morgan, si elle souhaite déjà connaître une des autrices incontournables de la littérature américaine d'aujourd'hui. Mais en même temps, je pense que ce sera véritablement un des chefs-d'œuvre de l'année. Ce titre-là, comme je le disais, je faisais référence à Steinbeck, on est véritablement dans cette dimension-là, de par l'écriture et surtout de par le sujet et la volonté d'expliquer par les laissés pour compte et par le monde rural, les États-Unis d'aujourd'hui. Grand texte. Donc,
entre les laissés pour compte et les États-Unis et cette Cécile Coulon qui se cache derrière C.A. Morgan. C'est bizarre que ça vous plaise.
C'est étonnant que ça me plaise, j'entends bien. Après, voilà, c'est toute la beauté de cette romancière dans son écriture qui transparaît dans cette belle traduction. D'ailleurs, il faut saluer les traductrices. C'est Mathilde Bach, voilà, qui est traductrice littéraire et qui avait notamment traduit Le sport des rois, qui avait eu le grand prix de l'héroïne. Voilà, donc elle s'appelle C.E. Morgan, j'ignore les prénoms. C'est E, plus loin, Morgan. Ça s'appelle Tous les vivants et c'est dans la collection Du monde entier chez Gallimard Littérature.
Et si, comme moi, vous avez déjà envie de l'acheter, la librairie Caractère a déjà ouvert ses portes, non?
Oui, bien sûr.
À 9h47.
Depuis déjà un bon quart d'heure.
Est-ce qu'on fait une pause avant d'attaquer, une pause musicale avant d'attaquer les deux?
Il me semble que c'est la tradition.
Les deux. Je n'avais pas vraiment d'idée, puis je me suis dit, tiens, Anthony Clément, est-ce qu'on lui proposerait pas Sally Ford?
Ah, oh, parfait.
Hein? On fait ça?
Royal.
On fait ça, paf? Merci, paf.
MDM. Tout un monde.
I don't MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.
9h48 sur les ondes de Radio MDM et retour à notre chronique littéraire. Juste avant, on était avec C.E. Morgan, Tous les vivants. Deux autres livres sélectionnés pour cette fin de chronique, mon cher Anthony.
Exactement, j'annonçais deux femmes et un écrivain. Je vais placer au milieu et pas des moindres, André Laffont. Vous connaissez André Laffont ?
Et non, la honte. Enfin, peut-être que si, mais là tout de suite, franchement, vous me
prenez
un peu de cours.
Alors peut-être dans les auditeurs et auditrices... voilà, de Radio MDM.
Des moins incultes que moi.
Et fidèle à la chronique. Et non, du tout. Non, non, c'est une chance. Il faut savoir que quand on a des livres comme ça qui nous sont présentés et qu'on les a pas lus, et que en plus c'est des amis chroniqueurs de radio, libraires qui vous le proposent, pour le coup, voilà, c'est plus une chance que voilà qu'une forme de honte. Vous inquiétez pas, André Laffont. André Laffont avec son texte L'élève Gilles. Alors très certainement, ça parlera à des lecteurs et lectrices plus âgés. Il est sorti en 1912. Pardon. 1912, se créait le Grand Prix de l'Académie française. Voilà, c'est le premier lauréat du Grand Prix de l'Académie française, André Laffont. Il est né en 1883, près de Bordeaux, il me semble, ou à Bordeaux. Et est mort bien trop tôt. Voilà, ça fait partie des fulgurances comme Rimbaud, comme tant d'autres. Voilà, il est mort à 32 ans et signe en 1912, donc 88 jusqu'à 1912, 12 et 12, 24, c'est ça ?
Ah, j'ai pas.
Non, 83, non, même pas, non, un peu
non,
plus.
Non, mais les auditeurs feront le calcul. Ouais,
il avait 29 ans, il me semble. Ouais, 29 ans, Grand Prix de l'Académie française, le premier. L'élève Gilles, donc, avait été publié dans de nombreuses éditions depuis 1912, puis repris à la collection Les Veilleurs, il me semble, à Bordeaux. Et enfin, dans cette magnifique, vous aviez eu raison de le noter, hors antenne Margot, dans la magnifique collection Libretto. Donc, je parle de livres de poche. Voilà, André Laffont, l'élève Gilles. Gilles est un adolescent qui a grandi en ville, hein, à Bordeaux, et qui est placé à la campagne quelques mois chez sa tante. On a l'impression, à la première lecture, quand on ignore l'auteur, que Proust a écrit ça à côté et a pris un pseudo. C'est tellement étonnant du fait de l'écriture. Okay. C'est une écriture évidemment plus classique. On monte, on a ces phrases voilà, qu'on a tous lues dans les lectures prescrites au collège ou au lycée, des phrases très bien faites, parfois qui nous semblent pompeuses, mais pas du tout. L'élève Gilles, c'est un très court roman. Quand je parle de l'écriture de Proust, c'est pas justement sur la densité de l'écriture de Proust, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur plusieurs tomes. Et d'ailleurs, Un amour de soi, c'est ça qui est intéressant, je crois, sort un an plus tard. Okay. Le premier texte de La recherche du temps perdu de Proust. Voilà, donc on est en 1912. Comme je dis, cet adolescent est placé à la campagne chez sa tante. Et donc, ce qui est l'affiliation avec Proust, c'est davantage, comme avec Rousseau, ou comme même avec le grand Molne, parce que d'ailleurs, je crois que André Laffont est mort en 1915, et il me semble que l'auteur du grand Molne est mort aussi en 1915. Il y a d'autres similitudes que cette funeste que ce funeste détail, mais voilà, on a, comme chez Proust, comme chez Rousseau, cette volonté par l'écriture, et une des plus belles écritures, de faire de la littérature un chapelet de souvenirs. Et donc on est justement dans cette enfance, dans ces récits d'enfance, dans ce lien avec la nature. Gilles, évidemment, assiste aux premiers déboires de l'enfance, évidemment, les amis, les moqueries, les professeurs, et puis les professeurs de l'époque, qui sont quand même bien plus sévères, mais par contre qui demeure juste. On a quand même voilà, une belle lecture, une belle description d'André Laffont. Et donc on est dans cette entrée dans l'âge adulte, donc un roman de l'enfance. Et moi, pour ceux qui veulent connaître un des grands textes de la littérature de notre terroir jusqu'à Bordeaux, si je puis dire, voilà, il faut absolument vous procurer dans cette nouvelle édition sortie en janvier 2020, L'élève Gilles, donc d'André Laffont. C'est mon premier coup de cœur en poche, et il vous faut tous, lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices, lire ce chef-d'œuvre qu'est l'élève Gilles, publié en 1912 et qui résonne encore dans nos rayons.
Très bien. Bah écoutez, ça fait partie de ce qu'on va rajouter sur la liste avant d'aller à la librairie.
Voilà. Et donc maintenant, je reviens avec une autre dame, une journaliste.
En fait, je vais arrêter de vous écouter parce que déjà que quand j'y vais au moins une fois par semaine et que je fais déjà des courses suffisamment
Reste. Oui, oui, je le sais. Enfin,
Arrêtez.
Après, pour l'anecdote, moi, j'ai repris et créé la librairie Caractère parce que j'avais trop de dépenses en livres. C'est simplement dans ce fait-là. Non, je plaisante.
Comme ça, je ne paye plus mes livres.
Exactement. Non. Par contre, là, on va parler de passion, justement, et de passion du livre et de jusqu'où ça nous amène, la passion du livre. Donc ça, par exemple, ça m'a amené, moi, à pratiquement une dizaine d'années sans vacances pour entièrement brûler de la passion de mes livres et de la transmettre et aussi de la recevoir de nos amis et fidèles lecteurs-lectrices. Par contre, voilà, l'amour des livres peut nous amener très, très loin. Et cette journaliste, qui est vraiment extraordinaire. Moi, je la découvre avec ce roman-ci, mais apparemment, elle signe énormément de papiers dans les grands journaux littéraires ou autres aux États-Unis. Elle s'appelle Alison Hoover Bartlett. Ça vient de paraître en poche aux éditions Pocket. C'est mieux de l'acheter en grand format aux éditions Marcali, une maison d'édition chère à Aurore, ma collègue, qui font c'est pratiquement des archéologues littéraires, et ils ont toujours des trouvailles insensées et incroyables, et surtout, les éditions Marcali sont de très très bonnes factures, donc pour le confort de lecture, c'est beaucoup mieux. Il n'empêche que pour les petites bourses, la sortie poche est aussi bienvenue, ça s'appelle « L'homme qui aimait trop les livres », donc d'Alison Hoover Bartlett. C'est une journaliste, et c'est l'ouvrage d'une journaliste, puisque c'est véritablement une enquête, elle a fait énormément de recherches, et elle s'est surtout attachée à la figure de John Gilkey, le plus grand voleur de livres dans les années 2000 aux États-Unis, un voleur de livres rares, pas du tout un voleur de livres d'édition courante dans les librairies courantes comme les nôtres, mais véritablement un voleur de livres rares. Puis il avait accumulé des centaines de milliers d'euros de livres, mettant son père complice dans la bataille, faisant des faux chèques. Il est tout à fait à comparer à, je ne sais plus comment s'appelait, ce type qui avait donné lieu au film Attrape-moi si tu peux. Mmh. Voilà, vous voyez,
ouais.
C'est exactement la même figure. Voilà, donc ce récit est véritablement une chasse au trésor. On va tout d'abord entendre ce que c'est que la passion du livre et surtout rentrer dans le monde des bibliophiles qui n'est pas celui de nous simples lecteurs et lectrices ou libraires et libraires, ça va au féminin aussi, mais, mais vraiment
c'est
dans le monde
inclusive.
Voilà, des bibliophiles, des livres rares et donc des amoureux des livres jusqu'à voilà, entrer dans l'illégalité, développer même toute une théorie, je me dois d'avoir ce livre, et c'est pas tout de voler un livre, mais ce qui est fou, c'est de vouloir constituer la bibliothèque de livres rares idéale que l'on a dans la tête. Et là, c'est encore plus fou. Donc on a vraiment une première partie où on rentre voilà, dans cette passion qui est de posséder des livres rares, où on va rentrer dans les bibliophiles. Alors ça peut être celle qui veut l'édition à 500 exemplaires d'Harry Potter, jusqu'à celui qui va tomber sur l'ouvrage d'il y a 400 ans de Materlan. Enfin, voilà. Bref, c'est la folie déjà de rentrer dans ce monde-là, et je vous invite, vous allez bouffer les pages dès le début, et ensuite vous allez voir comment un libraire fait front et décide de soulever toute une armée pour arrêter John Gilkey et donc enrayer aussi, puisque la police s'en carre complètement, ils n'entendent pas du
livres,
tout qu'un petit objet de la sorte avec des pages dedans et de l'écriture dessus puisse coûter 150 000 ou 200 000 dollars. Donc voilà, on va entendre tout ça, on va fréquenter les salons de vente, on va fréquenter les librairies aussi de livres rares. On va rentrer justement dans avec cette non-fiction dans une enquête des plus jubilatoires. Voilà, si vous voulez vraiment un roman, pas un roman, pratiquement une non-fiction, une enquête très très bien écrite, très très bien traduite d'Alison Hoover Bartlett pour les vacances. Ça s'appelle « L'homme qui aimait trop les livres » avec un libraire qui s'improvise enquêteur. C'est vraiment divin, parfait, merveilleux. Une des grandes lectures de ces mois-ci.
Et hop, vous mettez ça sur la note.
Voilà.
On fait comme ça.
Voilà. Merci beaucoup.
Mais c'est moi, avec joie. Est-ce qu'on fait un petit point? Je crois qu'il nous reste genre 2 minutes.
2 minutes,
on
très
fait un
vite.
Point pour dire tout ce qui va se passer encore du côté de la rue du Maréchal Bosquet ce week-end.
Et ailleurs, même hors
Mais
les
oui.
murs. Donc ce soir, évidemment, le rendez-vous mensuel et magnifique des métaphysions méditasiques en hommage aux méditations métaphysiques. C'est toujours difficile de le dire. mais là c'est de la musique et c'est de l'improvisation et c'est notre merveilleux Jules Thévenoud, voilà, qui vient chaque mois embellir par sa musique les murs de la librairie. Donc ça, ce sera à 18h ce soir. Évidemment, on poursuit ce week-end la part des colibris que vous connaissez, l'épicerie du bon sens, voilà, nous propose désormais aussi des ateliers. Il y en aura un sur la cosmétique, slow cosmétique bio, donc ce sera samedi de 10h à midi, c'est sur réservation. Je vous invite, je vous renvoie vers la page Facebook et vers la page vers le site internet de la librairie. Et puis l'après-midi, nous serons partenaires et là, voilà, je dis chapeau évidemment à la programmation de la médiathèque d'Air-sur-Adour qui invite monsieur Cursainte sur Les Cagots, une récente parution aux éditions Kern. Tout ça est de mémoire, il me semble que c'est sous-titré Histoire d'une ségrégation.
Et pas ségrégation d'une histoire.
Voilà.
Merci beaucoup, Anthony.
Merci à vous.
Ah ben vous, on est resté sur le vous finalement pendant une demi-heure.
Hein. À vous tous, et toute voilà, l'équipe. Vous. Voilà. Une pensée, Anthony, repose-toi.
Ouais, c'est ça, il est à l'espiole en train de travailler. Bisous, bisous. Merci, Paf. Et à tous.
Merci, Paf.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.